Tout à l'heure, on a parlé de la nécessité de maîtriser ou non le geste, et notamment que dans les néo-titulaires, les nouveaux arrivants, on ne maîtrise pas forcément le geste. Donc la question, c'est, faut-il vraiment maîtriser le geste professionnel de base, monter des agglos, ou est-ce que justement, la modification de la professionnalité actuelle, ça va peut-être plutôt servir les enseignants de ne pas maîtriser le geste, parce qu'ils vont peut-être se focaliser sur d'autres choses et les aider à entrer plus facilement dans la réforme. Donc, voilà, quel est le degré de maîtrise du geste qui est nécessaire pour être un bon enseignant en lycée professionnel?
Je vais vous apporter une réponse qui est la mienne, très pragmatique. Vous allez acheter une maison. Est-ce que vous acceptez d'acheter une maison qui a été montée par quelqu'un qui ne maîtrise pas le geste? Au bout du compte, il y a bien quelqu'un qui va faire. Qui va réexécuter, qui va passer d'un. Je dis pas que le geste est coupé de l'intellect, au contraire. Piaget l'a largement démontré que c'est intimement lié. Mais la vocation, c'est quand même. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui reste dans l'appellation aujourd'hui, lycée professionnel. Donc, dans la profession pour ces élèves-là, il le faut à mon sens, qu'il y ait un minimum d'acquisition du geste. Malheureusement, les nouveaux enseignants qui arrivent, qui sont formés par l'université, pour un certain nombre d'entre eux, ne maîtrisent pas le geste. Ils maîtrisent des savoirs, avec un grand S, des savoirs scientifiques, je parle de génie civil. On a deux populations, les sachants en savoir scientifique et ceux qui viennent du monde du travail, qui à un moment donné, dans une trajectoire personnelle, se dirige vers l'enseignement, comme moi. Donc, on maîtrisait et un geste et un savoir scientifique. Mais c'est vrai que on aurait pu. Dans ce que je vois aujourd'hui, on est à peu près moitié-moitié. Il y a des gens qui ont jamais. Qui ont fait des TP, qui ont été des doctorants à l'ENTPE, etc. Mais si je les mettais devant une palette d'agglomérés avec un mortier, etc., je suis certain qu'ils seraient pour monter des agglos. Pourtant, ils vont parler. J'ai fait partie, moi, des enseignants à l'ancienne UFM, aujourd'hui l'ESPE, et je tiens toujours le même discours à mes collègues qui n'étaient pas toujours d'accord avec moi. Je leur disais, un professeur qui enseigne à l'université de médecine la chirurgie cardiaque, il opère. Un formateur permanent, où est-ce qu'il est dans la classe? Vous parlez d'un métier que vous ne pratiquez plus. Et c'est, je pense, entre guillemets, c'est quelque chose qui a complètement délité les UFM. Comment peut-on, et je suis toujours sur cette posture-là et j'en bougerai pas, comment peut-on parler d'un métier qu'on ne pratique plus?
Qu'on n'a jamais pratiqué.
Quand j'étais donc à l'UFM, j'ai été enseignant tous les lundis matins dans des classes d'UFA, 4 heures, et j'étais un prof de base à confronter aux mêmes difficultés que mes collègues. Et je pouvais parler d'un métier que je... Alors, j'étais d'abord formateur et ensuite dans de la recherche, mais je pratiquais un métier, certes de façon restreinte, 3 heures, 4 heures par semaine.
Oui, et mais pas c'était l'expérience auprès des élèves.
J'avais les pieds dans la yadou comme mes copains. Bon. Et ce qui me fait dire que... à un moment donné, si c'est un maçon, si c'est un peintre, si c'est etc., il doit bien savoir mettre quelque chose en application, monter un mur, faire une peinture, poser une moquette, etc. Parce que s'il ne le fait pas, à un moment donné, il faudra bien que quelqu'un le fasse.
C'est un réel problème en génie civil. C'est un réel problème qu'on ne retrouve pas dans d'autres... Alors même dans le génie civil... on n'a pas la même approche selon les métiers. Par exemple, on a mon collègue Denis Millet, hein, qui s'occupe de l'énergétique. Et effectivement, avec les nouveaux modes de recrutement, sont arrivés là des étudiants. Hein. Mmh. Et en énergétique, il y a le geste, mais c'est vrai que de plus en plus, on arrive sur. Enfin, je veux dire, on est moins gestuel. Alors, ce qui fait qu'on est en train de travailler avec les branches professionnelles, alors là, heureusement, elles nous aident, on va essayer d'organiser des stages, on va essayer d'organiser des choses pour professionnaliser gestuellement les enseignants.
Il y a quand même tout un tas de choses qui sont laissées de côté dans la nouvelle masterisation des enseignants. Chaque fois, j'ai rencontré des inspecteurs, des IG, etc., et je leur disais, mais un master carrelage, un master boulangerie, master charcuterie. Et toi, une fois que tu m'avais répondu, oui, c'est vrai, les seuls masters que j'ai vus, c'est sur les chantiers.
Sur le parking. Et souvent, c'est... Non, mais c'était une boutade.
Voilà, mais quelque part, ça relève d'une réalité. Ça relève d'une réalité. Donc, à un moment donné, le faire... Ben, on est très souvent dans le faire-faire, mais le faire, il faut bien aussi le maîtriser, quelque part. Donc, il y a, en termes de, légitimité, ça risque de poser des problèmes.
Par rapport à l'universitarisation, c'est quand même une vision, j'allais dire, unilatérale. L'idée, c'est pas qu'il n'y ait que des savoirs universitaires. Oui, je pense qu'il faut peut-être relativiser les choses.
Mais ça pose sur le terrain, ça pose un problème. Et moi, je reviens toujours sur la souffrance des enseignants. On a eu le cas à Cusin notamment, hein, où il y a un enseignant, mais il était en une souffrance, pas possible, il a fallu qu'on l'accompagne, etc. Effectivement, il se retrouvait, lui, il sortait de les...
Enfin, du coup, il était étudiant, ça questionne l'évolution de la profession.
Et il se retrouvait avec des CAP, c'était énergétique, là, pourtant, hein, des CAP énergétiques. Il ne savait pas souder, il savait rien faire. Mais ça pose un problème incommensurable pour lui. Et il faut savoir aussi une chose, et c'est peut-être une des particularités aussi du génie civil, c'est que quand on a, vous avez des gamins qui ont perdu des tas de repères. Il y a quand même une chose, c'est que quand en face d'eux, ils ont quelqu'un qui sait faire, qui se moque pas d'eux et qui essaie de leur faire passer quelque chose de gestuel, etc., il y a respect. Hein ? Bon, on respecte cette personne pour ce qu'il sait faire. J'ai eu le cas d'un enseignant qui était en plus il était TP d'origine. Bon, il est passé, parce que là aussi on a des problèmes d'étiquetage, hein, il était avec des élèves de maçons, et il a passé une heure et demie en PowerPoint, hein, à monter un mur d'aglo en PowerPoint. Bon, à un moment donné, je lui ai dit gentiment, je suis allé le voir, et puis je lui ai dit, bon, on s'y met quand, quoi. Bon. De coup, on est passé à l'atelier, il a son tuteur qui avait préparé le mortier parce que lui savait pas trop comment faire, et il a commencé à montrer comment, oh là là, c'était une catastrophe. Et là, il était complètement décrédibilisé. Ah, et donc, alors après, il a fallu qu'on mette des trucs en place en disant, bon voilà, il faudrait faire des stages, il faudrait que l'activité que vous proposez aux jeunes, AS-1, vous la fassiez dans un coin de façon à vous-même, etc., etc. Mais pour eux, vous vous rendez compte, c'est déjà difficile de commencer un métier d'enseignant quand en plus il faut que vous appreniez le métier professionnel.
Le geste.
Le geste, ça devient très très compliqué. Voilà. Donc j'ai pas vraiment de solution, mis à part des stages qu'on peut faire en entreprise.
Et est-ce que ça pose pas des problèmes de recrutement au niveau des concours? Parce que là, si, à un moment donné, forcément, ça passe par là. Donc les gens qui arrivent sur le terrain, ils passent par des concours s'ils sont titularisés.
C'est bien pour ça qu'on est resté sur des concours des métiers. Hein. On a des concours des métiers, par exemple en conduite routière, on vous impose un niveau bac, pas plus, pour passer les concours. Parce qu'on sait très bien qu'on n'aura pas... Alors ils ont essayé de monter un master de conduite routière, enfin bon, c'est des trucs... voilà, mais ça répond à rien, et ça correspond à rien, et ça correspond pas aux besoins. Et bon, le peintre est encore un concours de métiers... C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'exigence du master. En gros œuvres, il y a l'exigence du master maintenant, mais on arrive à faire des incartades aux exigences. Bon, voilà, parce qu'on trouve pas non plus le public. On trouve personne qui s'inscrit à ces concours.
On braconne dans d'autres coins.
Voilà, donc c'est pas clair, hein, mais bon.
Une réaction.
Là, je vais me permettre de dire que je suis pas d'accord avec vous.
Mais bien sûr, vous avez raison.
Enfin, une controverse.
Donc effectivement, là où je vais commencer par ceux qui nous rejoint, effectivement, il faut qu'il y ait d'autres voies de formation et qu'on puisse reconnaître la formation professionnelle aussi chez les enseignants et qu'on puisse être enseignant en lycée professionnel autrement qu'en ayant un master. Mais quand même, quelqu'un qui a un master ou un diplôme d'ingénieur dans le domaine technique, certes, il n'a peut-être jamais produit, mais il a quand même le niveau pour se former. Alors attendez, là je suis pas d'accord avec vous. Je veux dire, un ingénieur en génie civil, d'accord, qui a conduit des projets, qui va intervenir sur des chantiers, quand il va y avoir en tant qu'ingénieur des grosses difficultés techniques ou professionnelles, qui va donner des conseils à un opérateur, si vraiment il choisit le métier d'enseignant, qui choisit de former des opérateurs, il va quand même consacrer du temps pour se former lui-même. Il a les compétences intellectuelles qui lui permettront de devenir un bon opérateur s'il y consacre du temps. Alors après, c'est une question de volonté. Si effectivement le jeune recruté master, il n'a pas envie de consacrer ce temps pour devenir lui-même un très bon opérateur, à un moment donné, c'est une question de motivation par rapport au métier. Mais il a les compétences intellectuelles qui lui permettront, peut-être, parce qu'il y a une question de gestuelle et de dextérité, on sait qu'on a du talent ou on n'en a pas. Si on n'en a pas énormément au niveau de la gestuelle, on y consacre plus de temps. Il y a un moment donné où, il y a différentes voies d'accès à la maîtrise du geste, je veux dire. Soit on vient de la voie professionnelle, effectivement, on le maîtrise naturellement, soit on vient de la voie plus académique, et c'est quelque chose qu'on apprend parce qu'on a compris les concepts. Donc,
Répondait simplement à la question d'origine, du point de départ, c'était la souffrance des enseignants. D'accord. C'était juste ça, mais... c'est-à-dire que quelqu'un qui ne maîtrise pas le geste, s'il n'a pas de la ressource en interne, en externe, pour l'apprendre vite, ça va surajouter à son entrée dans le métier. C'est
vous savez, prenons par exemple le concours de meilleur ouvrier de France. Hein, prenons ce concours. Vous avez énormément d'ingénieurs, par exemple, qui réussissent le concours meilleur ouvrier de France. Ça n'empêche pas un jour de devenir...
On est d'accord. Simplement, on est d'accord, mais je vous l'ai dit, tout, même dans le génie civil, on ne peut pas mettre tous les métiers à la même aune. Hein? Moi, mes collègues, par exemple, qui sont en comptabilité, secrétariat comptabilité, quand je leur tiens ce genre de discours, ils me disent « Mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Enfin, on n'a pas besoin de... » Vous voyez,
Mais ce n'est pas la réalité. C'est pas la réalité de la filière du génie civil.
Il est important qu'au concours, vous laissiez aussi la place à des personnes qui ont un master, qui n'ont pas cette compétence gestuelle, mais qui vont l'acquérir parce qu'ils ont vraiment la volonté de devenir de bons enseignants.
Mais on n'a jamais été contre. Hein. Non, mais simplement, c'est quand même un problème qu'il faut résoudre.
Oui, par contre, effectivement, il faut le dire assez clairement... Quand les jeunes sont à l'ESP, qu'effectivement, ils ont cette compétence à acquérir et que ça va leur demander du temps et du travail. Normalement, ce sont des gens qui aiment le travail, je veux dire.
J'ai eu des ingénieurs arts et métiers centraliens qui sont professeurs de grosses œuvres, en leur disant, mais vous avez fait Centrale Paris et vous voulez faire, je posais bien la question, vous voulez faire prof de maçonnerie dans un atelier avec des gamins, voilà. Il dit, oui, c'est mon choix, je le fais. Je ne suis pas du tout. On est entièrement d'accord, mais c'est simplement sur la.
Il y avait aussi l'autre côté, pour en finir avec cette question. Il y avait l'autre côté, bon, sans vouloir parler de mon propre cas. J'ai un BT d'origine, hein, donc ça veut dire que bon, c'était niveau 4, quoi, en gros. Hein. Bon, après, il a fallu, quand je suis devenu enseignant, tant que j'ai fait du CAP, j'avais le geste, hein, parce que j'avais aussi travaillé en entreprise, hein, j'avais une entreprise, donc ça allait, ça, il n'y avait pas encore de problème. Quand j'ai voulu grimper, ne serait-ce qu'au niveau bac pro, etc., puis après, plus tard, devenir inspecteur ou autre, enfin, bon, et j'ai bien senti qu'il me manquait des choses. Bon, il a fallu que je passe par le CNAM, le cours du soir, etc. Donc ça veut dire qu'aussi, autrefois, il y avait aussi votre pendant. Hein. Mais on est dans le génie civil la particularité que quelque part, il faut aussi qu'on ait des compétences gestuelles et il faut aussi qu'on ait des compétences intellectuelles et que les deux soient intimement liés. Moi, j'ai tendance à dire en boutade que vous avez d'un côté l'intellectuel, mais que le manuel, lui, il faut qu'il travaille aussi avec sa tête. Hein. Donc c'est encore plus difficile d'être manuel qu'intellectuel. Bon, ça, c'est une boutade.
Non, mais pour compléter l'échange, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un enseignant professionnel? Ben, c'est un enseignant justement qui est en capacité de renouveler ses pratiques, qui est en capacité d'apprendre et de se former. Et effectivement, on est dans la même logique, dans la même dynamique. C'est partagé.
Et le master ne peut que valoriser la voie professionnelle. C'est le même niveau. C'est très bien.
Je pense aussi que les enseignants en souffrance dont vous parlez sont des enseignants qui ont une longue expérience et qui sont entrés dans le métier avec un bagage technique. Quoi. C'est tout. Peut-être pas que ce ne sont pas des enseignants.
Ils ne sont pas en souffrance de la même façon. C'est-à-dire que ils ne sont pas en souffrance de la même façon.
Ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont de la difficulté à laisser une posture qui s'appelle « je suis un très bon professionnel de la maçonnerie » pour devenir un professionnel de l'enseignement. Donc certains, une classe, ce n'est pas un chantier.
Ce n'est pas la même professionnalité.
Il ne faut pas que ça soit le chantier, mais on commente pas des élèves. C'est des pratiques différentes. Donc il y a certains enseignants qui ont une très grosse expérience du monde professionnel, qui ont eu la difficulté à endosser la posture d'être un enseignant à part entière. Voilà. Donc il y a tout là.
Puis il y a aussi le problème de l'étiquetage. Vous n'avez qu'un seul étiquetage. En gros, le gros œuvre, ils sont étiquetés 3020. Quand vous êtes étiqueté 3020, on se moque complètement de savoir quel est votre passé. Ah, c'est-à-dire que vous veniez du master ou que vous étiez un ancien avec 30 ans de pratique professionnelle, qu'importe, vous pouvez vous retrouver soit avec des CAP, soit avec des bacs pro, etc. Qu'importe. Donc ça veut dire que ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à ajuster le profil de la personne en fonction des jeunes. Or, c'est pas ça. Vous avez un poste qui se libère, vous avez un enseignant qui a l'étiquette, on le met dessus. Alors, on cherche pas à savoir d'où il vient. Et effectivement, on voit en bac pro qu'il y a des jeunes enseignants en bac pro qui, où là, il y a un peu moins besoin de, puisqu'on dévolue beaucoup de choses à l'entreprise. Bon, qui vont très bien, vous les mettez en CAP, c'est une catastrophe, et eux, ils souffrent beaucoup. Vous voyez, il y a ça aussi, ce problème-là, et là, on n'y peut rien là-dessus.